Et si on en parlait ? Une émission parrainée par le restaurant Le Sud, place André Lescure à Villefranche-de-Rouergue. Le Sud, pour ne pas perdre le Nord. Et bonjour, nouvelle émission de « Et si on en parlait ?» Et aujourd'hui, c'est la suite de l'émission de mardi dernier avec mon invité qui est Carlos Da Costa, la très célèbre famille Da Costa. Et oui, mais il y en a beaucoup quand même dans le monde, il doit bien avoir 2-3 millions de Da Costa.
Oui, de Da Costa, de Da Silva.
Voilà, c'est un prénom, c'est un nom portugais. Oui. Da Costa, je pense, ça veut dire de fils de Costa, comme Ben Barca, Ibn Maché, oui, cette truc, ça veut dire fils de, en général, hein. Ouais, comme Polanski, ski, ça veut dire fils de, c'est toujours pareil. Nanana ski, ou voilà, c'est, si, ça veut dire fils de, Marine, la belle Marine, et doute de ce que je dis, mais je le confirme. Et alors donc, on raconte ta vie, Carlos. Tu vas bien depuis la semaine dernière?
Ben oui, Michel. Depuis la semaine dernière, j'ai fait mon émission le mardi même, donc le soir. Donc oui, quoi. Enfin, j'ai déjà celle de ce soir préparée.
Et notre émission a été bien écoutée. On en a beaucoup parlé, quand même.
Écoute, moi j'ai écouté. J'étais dans la voiture, j'ai écouté, et finalement, c'est vrai que je parle beaucoup, mais finalement, c'était
pas si
mal que ça.
Non, mais tu parles beaucoup, et moi je te laisse parler, parce que quand tu parles, t'as les larmes aux yeux, donc ça relève le niveau de plein de gens qui des fois ne disent rien, donc ça gâche pas.
Et puis, pour une fois qu'on a un animateur qui laisse les invités parler, c'est un régal.
Alors, la semaine dernière, donc, on en était resté en 1974, c'était minuit et quelques, et tout d'un coup à la radio, quelle radio d'abord c'était ?
Voilà, Radio Renaissance, c'est une radio catholique qui est catholique au Portugal, et comme les Portugais sont 98% de la population est catholique, donc tout le monde écoute cette radio.
Et là, une chanson très spéciale qui est passée.
Oui, on l'a écouté.
Voilà. Ouais. Qui en fait a déclaré la révolution.
Voilà. C'est à partir de cette chanson que toutes les compagnies qui étaient prévues pour rentrer à Lisbonne, ils se sont toutes mis à rouler vers Lisbonne.
Rappelons quand même que la révolution, c'était pour foutre en l'air un facho.
Voilà.
Qui s'appelait.
Oui. Ah ben, à ce moment-là, c'était Marcelo Caetan, le président. Mais c'était la suite du dictateur Salazar.
Salazar, voilà.
Alors, on précise, donc, le 25 avril, donc, on a donné à cette révolution.
La révolution des œillets. Œillets,
voilà. Et donc, la chanson, elle est partie, oui, à minuit 20.
Et qui a composé cette chanson?
Alors, c'est José Afonso, qu'on avait parlé déjà la semaine dernière. Et c'était un révolutionnaire. C'était quelqu'un qui a combattu la dictature par ses chansons. C'était un artiste. Il était aussi instituteur. Mais c'est quelqu'un qui a passé la plupart de sa vie en cachette ou alors en prison.
Et c'était prévu qu'à la radio, quand passerait cette chanson, toutes les troupes se mettaient...
Voilà, c'était le signal.
Qui l'avait décidé, ça?
Bon, mais c'est, alors, la personne, celui qui a donné le signal, il s'appelait Sarai. J'ai un peu de mal à me rappeler de son nom, mais de toute façon, celui qui a pris le pouvoir, donc la place du président du Portugal à ce moment-là, c'est Espinho, le général Espinho. Donc, c'était lui qui était à la tête de tout ça, mais tout ça secret, et c'est lui qu'après a été amené
général,
à
quand même.
Général. Oui.
C'est l'armée, donc, qui a pris la place de l'armée, en fait.
Voilà. Non. le gouvernement portugais.
C'était pas
militaire. Non.
Parce que Franco en Espagne c'était militaire.
Oui. Au lieu, Non, au Portugal c'était pas ça. Et donc, de toute façon, la révolution qui a eu lieu, il y avait que l'armée qui pouvait.
En fait, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire quand il y a une révolution, c'est soit l'armée qui prend le pouvoir contre les privés, soit les privés qui prennent le pouvoir contre l'armée.
Voilà.
C'est un peu ça.
En général, oui. Mais là, donc ça a été donné. Donc cette chanson, c'était une chanson de liberté. Donc voilà, c'est le signal et tout est parti de là. Et la révolution s'est bien passée puisqu'il y a eu que 4 morts. Je répète, la semaine dernière, on avait parlé de ça.
Et le monsieur en place a été exilé sur l'île de Madère.
Voilà, ils étaient 3. C'était le président, le premier ministre et puis un autre qui était aussi.
Et qu'est-ce qu'ils sont devenus
Après de Madère. De toute façon, c'est quelque chose qui a été négocié. Évidemment qu'eux, ils ont négocié leur liberté, ils les ont envoyés à Madère pour être peut-être un peu tranquilles. Mais après, j'ai su que le président, Marcelo Caetano, lui, il s'est exilé au Brésil.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, le gouvernement facho a sauté. Il y a un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui se passe à partir de ça au Portugal?
Alors, à partir de ça au
Portugal. La capitale, c'est Lisbonne, hein?
C'est Lisbonne.
C'est là que tout ça se passe.
Oui, c'est là qu'ils ont pris le pouvoir. Alors, la partie, pour moi, il y a rien qui se passe puisque j'étais déjà en France. Puisque moi, je suis venu en France en 1970. Donc, j'étais ici. Par contre, c'est sûr qu'à partir de là, j'ai lu, j'ai suivi un petit peu ce qui s'était passé par rapport à ça. J'ai même vu un film, puisqu'il y a un film qui a été fait sous la Révolution, que c'est le 25 avril. L'artiste féminine, c'est une Portugaise qui est ici en France. C'est Marie de Medeiros.
Je connais, très bien.
C'est elle l'artiste féminine. En voyant le film, en lisant le livre et en voyant le film, je pense qu'il est conforme à ce qui s'est passé, à la réalité. Voilà. Et donc, moi ici en France, évidemment, ma vie, elle part, on arrive au paradis. Que j'appelle le paradis, puisque on fait les moyens, c'était beaucoup plus important. On gagnait bien notre vie. Papa, que son rêve, c'était donc de faire une maison là-bas avec ma paye, puisque je travaillais, la paye d'un frère, moi, celui que me suis, qui travaillait aussi, et celle de papa, évidemment. Comme tous les immigrés, on envoyait l'argent au Portugal.
C'est un peu quand même. Ce que reprochent les Français aux étrangers, c'est de venir bosser en France et d'envoyer les sous à l'étranger. C'est un peu ça quand même.
Oui, mais c'est un peu ça. Mais finalement, le reproche, oui, sous le coup, il est valable. Mais quelques années après, il n'est plus valable. Et je vais te dire pourquoi, Michel. Au départ... Tout le monde vient. Je pense que c'est les immigrés, c'est tout ça. Même maintenant, quand on voit les Africains,
nous sommes tous des immigrés. De toute façon, des races pures, il n'y en a pas.
Et je pense que quand on s'en va de son pays, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, c'était la misère. Donc, on y va pour essayer de faire un peu fortune. On ne sait pas la fortune qu'on va faire, mais essayer de gagner mieux sa vie, économiser et rentrer au pays. Donc voilà, on commence par faire la maison, tout ça, et puis on rentre. Finalement, au bout de tout ça, ça se passe pas du tout comme ça. Parce qu'il faut pas oublier que mes parents, et moi, à l'époque, j'avais 17 ans. Les plus jeunes, ils sont nés en France. Donc nous, notre vie, elle a totalement changé. Elle a pas du tout... Nous, les grands, en arrivant en France... pour nous, c'était le paradis, donc au Portugal, on n'en veut plus. Même si à la maison, oui, pour y aller en vacances, impeccable. Mais après, et donc, moi, je connais beaucoup de gens, et c'est ce qui est arrivé à mes parents, à ma mère, parce que papa, il était déjà décédé. Nous, on avait cette maison au Portugal, on allait tous les ans. Quand papa nous a quittés, mais ça a été fini. Maman, elle allait de temps en temps, on la mettait à l'aéroport et elle partait là-bas. Mais maman, avec l'âge, donc, elle a beaucoup de difficultés. Et nous, on avait cette maison au Portugal qu'on n'allait pas tout le temps. Bon, il y a un donc voilà, au départ on allait tous les ans et puis après la vie de chacun et cette maison elle était en train de se abîmer.
Et vous l'avez vendue.
Elle s'était en train de s'abîmer, personne n'habitait dedans. Donc avec l'accord de maman et nous tous les frères et sœurs, on a décidé on a décidé de vendre cette maison.
Donc plus nous là de racines vu que non, le papa bah, était enterré en France.
Voilà. Et puis il y a pas que ça, ouais. C'est que papa il a fait la maison au Portugal, mais il a acheté une maison ici aussi. Donc ma mère, elle habite chez elle et nous quand on veut se rencontrer tous, on va tous chez maman.
Et les ancêtres de ça, ils sont quand même tous au Portugal.
Oui.
Vous
oui.
allez des fois visiter ou pas?
Alors, quand on y allait
vous n'y allez plus.
Non, on n'y va plus.
Je conçois, moi c'est pareil chez mes grands-parents qui sont de Provence. On a vendu la maison parce qu'on n'y allait plus. Les mecs nous bouffaient le terrain. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça. C'est la vie après qui passe par-dessus.
Voilà,
quoi.
Voilà. Et de toute façon, pour nous, la famille principale, elle était là.
En France.
Les frères, sœurs, maman, papa. Donc voilà, nous, le Portugal, pour nous, si, pour y aller de vacances. Et maintenant, même pour y aller en vacances, il faut qu'on fasse comme tout le monde. On aille habiter chez louer une chambre chez l'habitant ou on va à l'hôtel, puisqu'on a plus de maison.
Première respiration musicale, donc, oui. Tu n'as pas Medeiros. Des fois.
Non, je l'ai pas.
Mais bon,
non,
un jour, on l'écoutera parce que c'était une très belle chanteuse. Alors, en plus, elle est belle physiquement.
Michel, je voudrais avant te parler un petit peu d'Amalia Rodriguez qu'on a parlé la semaine dernière. Toi, tu m'as posé des questions et moi, j'étais pas par rapport à des dates.
Oui.
Et donc, je suis allé chercher ma paperasse. et donc, alors Amalia. La date exacte de sa naissance, on la connaît pas. Par contre, il existe quelques papiers officiels qui disent qu'elle est née le 23 juillet 1920. Et donc, elle a, en 1985, elle a été décorée par Jacques Lang, de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et en 1990, elle a été aussi. Enfin, François Mitterrand lui a remis la Légion d'honneur. Et elle est décédée le 6 octobre 1999.
Et donc, elle avait 79 ans, jour de sa mort.
Voilà, c'est ça.
Tout à fait.
Alors, Michel, au niveau musical, là, donc, on avait démarré l'émission la semaine dernière par Amalia Rodriguez.
Oui.
Mais au Portugal, il n'y a pas que ce fado. Il y a un autre fado qui existe, qu'on avait discuté tous les deux. C'est le fado de Coimbra. Donc, moi, je voulais...
Coimbra, c'est dans le sud du Portugal.
Oui, ça commence à être, c'est un peu le centre vers le sud, oui. C'est déjà, c'est pas loin de Fatima, Nazaré,
tout à fait,
que
Nazaré,
toi tu connais.
Oui, tout à fait. Fatima sais... aussi, c'est là où il y a eu les, soi-disant, l'apparition de la Vierge,
oui,
les miracles,
pas d'adieu, là. Et que nous, on y croit. Et je peux te dire que tous les Portugais qui vont au Portugal au mois d'août en vacances.
Toi, tu y crois.
Il faut qu'ils y aillent. J'y crois. Alors, j'y crois, bon, enfin, il faut croire à quelque chose. Il faut donc je suis pas un pratiquant.
Ah, tu as le droit de
croire. Je suis pas un pratiquant, mais bon, j'y crois. J'y crois, même si il y a eu des petites choses difficiles dans ma vie.
Moi, je crois que le vrai miracle, par exemple à Lourdes, c'est que quand on nous plonge dans la piscine, on ressorte pas malade avec toutes les merdes qu'il y a. Mais enfin, ça, c'est ma façon de croire. Provocatrice.
Je suis d'accord, Michel. C'est pas plaisantant. On peut y penser. Et moi, je vais te dire un petit peu ça. J'ai perdu une fille. Elle avait 7 ans et demi. Et moi, tu sais, quand tu vois avec la médecine, et la médecine te dit on n'a rien à faire, enfin on peut rien faire, à un moment ou un autre elle va décéder, on tente plein de choses. Et moi je te dis, à ce moment-là, tu vois, bon, donc j'ai eu affaire à des, moi j'appelle ça des sorciers, j'en sais rien, en fait, tu sais, les gens
guérisseurs,
voilà. Et j'ai trouvé des salopards. Je le dis, j'ai trouvé des gens qui m'ont pris de l'argent en me faisant croire que...
Charlatan.
Voilà. Mais moi, je le regrette pas aujourd'hui, parce que ma fille, elle est décédée. Mais si je l'avais pas fait ces choses-là, aujourd'hui, je me poserais des questions. Et comme ça, je suis tranquille. Je fais tout ce que je pensais faire pour essayer de la sauver. Donc, qu'est-ce que je fais un jour, évidemment, je l'amène à Lourdes. et me disant pourquoi pas un miracle.
Oui, oui,
et je te raconte ça et j'ai la chair de poule parce que moi, ma fille, quand on l'a plongée dans cette eau froide, elle pleurait beaucoup. Et moi, dans mon de la bonne intérieure, je me disais, je sais, t'es pas contente, mais peut-être que ça va s'arranger. Et puis finalement, ça s'est pas arrangé. Elle est décédée quand même. Donc je me suis dit, le bon Dieu à qui je crois, bon, s'il était vraiment très puissant, il aurait fait quelque chose. Il n'a rien fait. Donc on reste toujours comme ça. Mais moi, je pense que quand on est dans la difficulté, quand on est dans un peu le malheur, il faut s'accrocher à quelque chose. Et voilà, oui, non, moi, je fais ça, mais c'est pas.
Je conçois totalement. J'ai moi-même un ami, là, en ce moment, qui est pas bien. Ouais. Et moi, je suis athée, Dieu merci. Mais bon, par moment, je me dis, si Dieu existe, faites quelque chose. Bah, et vu que je vois qu'il fait rien, je dis que si déjà il existe, c'est un pauvre con. Mais ça n'engage que moi.
Et moi, c'est même pareil. C'est la même chose. Mais bon. Oui. Alors, donc, après le fado classique, le
fado de Coimbra,
j'ai eu envie de te faire écouter le fado de Coimbra, qui est pas du tout le même, ça a un ton assez, bon, mais allez, on écoute,
s'il faut, fado de parler petit Coimbra. Fado de Coimbra, c'est qui le monsieur qui chante?
C'est Fernando Suárez.
Alors ça, ce qui est rigolo, c'est qu'on a parlé hors antenne, c'est qu'en fait, là, c'est un peu du Carlos Gardel. C'est de la musique de la voix argentine.
Ah
c'est
oui?
Un tango argentin, en fait,
oui,
accompagné avec un accompagnement portugais. Ce qui est en train de chanter, c'est comme Carlos Gardel, c'est du tango argentin.
Michel, t'es le spécialiste.
Non, non, mais moi, je te dis ce que je ressens.
Chanteur, musicien.
C'est tout à fait ça. C'est un mélange de tango argentin. Okay. Je pense que c'est l'influence de l'Argentine, et comme le portugais avec le Brésil, si tu veux. C'est un mélange d'un petit peu ça. On dirait.
Bon, c'est ça.
Ah, et ça parlait de quoi, par contre?
Tu m'apprends. Ah, j'ai pas écouté bien les paroles. Oui.
C'est un tango argentin, mais c'est un peu comme Carlos Gardel quand il a quitté pour aller là-bas. C'est un petit peu les plans d'exilés, de machin. Il parle un peu de tous ces trucs-là, je pense.
Voilà. Alors, c'est un fado, donc, que je connais moins, parce que c'est pas le traditionnel.
C'est pour ça que t'as moins accroché, d'ailleurs.
Mais voilà. Oui, c'est vraiment, c'est ça. C'est ça. Je le passe dans mes émissions. J'essaie d'expliquer un petit peu par rapport à ce que je comprends. Mais c'est vrai que sur le fado de Cui, moi, j'ai pas trop d'explications. Parce que je le connais pas assez pour pouvoir dire. Par contre, j'essaie de montrer ou de faire écouter ça, pour voir qu'il n'y a pas que le fado traditionnel et un autre fado à côté qu'on en parle un peu moins, mais qui est aussi important.
Ok. Petite parenthèse, donc, depuis très récemment, on peut écouter CFM sur Internet. Donc, il faut faire cfmradio.fr et on tombe sur Internet, sur CFM. Et c'est la belle Marine qui s'occupe de tout ça, plus ou moins. Alors, donc, du coup, le Portugal est libéré. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la bamboula, là?
C'est la bamboula, oui. Je suppose. Oui.
Un peu comme en Espagne, quand Franco était giclé, là.
La bamboula, de l'argent qui arrive, je ne sais pas si c'est la libération, donc, de cette politique qui existait, qui a fait que les étrangers sont mis à investir au Portugal. D'ailleurs, le sud du Portugal, c'est l'étranger, hein, quand tu vas là-bas, dans la région de Algarve, que j'appelle ça la Côte d'Azur du Portugal, c'est des Anglais, des Hollandais, des Allemands qui ont fait...
Sagres qui est...
Sagres.
C'est de là qu'est parti Christophe Colomb avec la Niña, Pinta, la Santa Maria.
Oui, c'est vrai.
C'est pourquoi? Parce qu'il a fait, avec Inès du Portugal, il avait fait un pari, c'est ça? Pour avoir des sous.
Ah oui, mais c'est surtout.
Il a dit, je veux si jamais vous n'arrivez pas à résoudre ce que je vous demande, vous me paierez tout ça. Alors il a posé un œuf. Il a dit, faites-le tenir debout. Alors tous, ils ont essayé, ils n'ont jamais. Et lui, il a fait un œuf dur. Il a cassé, il a tenu dur. Donc il a dit, on va vous payer tous ces.
Oui, et donc je pense que le fait qu'il est parti au Portugal, c'est parce que on le sait que le Portugal à cette époque, les découvreurs, les gens qui partaient. Ben,
c'est surtout parce que au point de vue géographique, c'est le plus près de l'Amérique. Ouais, ouais.
Et c'est vrai que de ce côté-là, les Portugais, ils ont été, à l'époque, ils faisaient fortune.
C'était un grand pays de navigateurs, au départ.
Il y en a un que j'ai bien retenu à l'école, c'est la découverte du Brésil. C'était en 1500 par Pedro Álvares Cabral. Ah, bon. Il y en a d'autres.
D'ailleurs, on dit beaucoup que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est pas vrai. C'est Américo Vespucci qui a découvert l'Amérique, d'où son nom, Amérique.
Ah, d'accord.
Ouais, c'est lui, par hasard, il est arrivé, mais c'était déjà découvert par Amerigo Vespucci. J'en sais des choses. J'ai fait fac d'histoire, rassure-toi.
Moi, j'ai fait très peu.
C'est pas grave. Il y a des diplômes au Portugal, comme style le bac, tous ces trucs-là.
Oui. Il y en a, mais
des diplômes universitaires?
Oui.
Il y a
un truc au Portugal. Ici, on a du mal à faire rentrer la langue portugaise à l'école. Même s'il y a des accords signés entre la France et le Portugal.
Oui, mais c'est le Brésilien. Brésilien est vachement parlé, quand même.
Oui.
Et le Brésilien, c'est du portugais.
C'est le portugais.
C'est pareil.
Oui,
donc,
ils ont juste un accent.
C'est universel, le portugais.
Mais au Portugal, la langue française, c'est une langue parlée, enseignée dans les grandes
Pourtant, le Portugal n'a jamais été une colonie française.
Oui, mais le français pour le portugais, c'était, je sais pas, c'est de langue vivante.
C'est que, parce que la France, pour les Portugais, c'est une terre de,
d'avenir, d'asile, d'accueil, quoi. Oui, oui, plutôt pour.
C'était l'Eldorado, quoi.
Et ça a été une bonne chose que la France ait eu besoin de monde à ce moment-là. En tout cas, pour moi et ma petite famille, ça a été très, très, très bien. Voilà quoi. Donc le problème, c'est quand papa il arrive, donc nous évidemment on se marie, on grandit, on
tu t'es marié où?
Je me suis marié ici en France.
Et alors un mariage portugais, c'est comme un mariage français?
Non, mais je me suis marié
catholique à l'église,
à la
mairie.
Oui.
Mais c'est au Portugal, ça se passe comment?
Le Portugal, alors on va à l'église. À l'époque, moi, maintenant, je ne sais pas, ça a beaucoup modernisé ces choses-là, mais à l'époque, quand l'église, c'était très important, c'était surtout le curé qui était important, parce que lui, c'est lui qui commandait un petit peu la religion catholique au Portugal à bonne époque. Ils étaient puissants. Moi, je me rappelle d'y aller à la messe, parce qu'on allait à la messe, obligé par mes parents. Donc le dimanche matin, on se levait de bonne heure et on allait à la messe. Et moi, je me suis rendu compte que le curé, pendant son discours, il faisait un discours. Et donc, il avait des propos qui n'étaient pas très catholiques. C'était par exemple, tu sais, à Pâques, c'est à Pâques, il y a une période qu'on ne peut pas manger de la viande. Et si on payait une taxe à l'église, ceux qui payaient, ceux qui avaient les moyens,
pouvaient
manger la viande. Nous, on n'en mangeait pas parce qu'on n'avait pas les moyens. Et je me rappelle d'entendre le curé, donc, dans son discours à la messe, dire, il y a un tel qui a donné 5 alors qu'il peut donner 10, et ainsi de suite. Même, j'ai même entendu le curé du village qui disait à la messe, toujours dans son discours, que les filles du village trouvaient qu'elles s'habillaient très court, et que c'était pas bien, et ainsi de suite. Et j'ai des souvenirs, quand j'étais gamin, quand on croisait le curé, s'il était de l'autre côté de la route, on traversait la route, mais en courant, et on lui baisait la main. C'était vraiment... alors, depuis, il paraît que ça a changé.
Depuis,
le curé,
c'est plus la main, comme
non, c'est autre chose. mais donc, ça a été aussi... Ça a été aussi, Michel, quand on est arrivé en France, donc, on allait à la messe au début. Après, maman ne venait pas avec nous. Donc, elle nous envoyait les petits. Nous, on mettait les petits à l'église. Et les grands, moi et mon frère, on allait boire un coup aux colonnes qui étaient à côté de la cathédrale à Villefranche. Mmh. Et quand on est arrivé ici, on a vu les curés qui étaient habillés comme tout le monde. Et on a été assez étonné. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est Alors, au départ, on ne trouvait pas ça bien, parce qu'on venait dans un truc qui était très pieux.
On venait du Moyen-Âge.
Et on a, par la suite, on a compris qu'on pouvait discuter avec le curé, normalement, de la vie de tous les jours. On pouvait même boire un coup avec, alors qu'au Portugal, tout ça, c'était très, très restreint.
Oui, c'était encore le Moyen-Âge. C'était quand même... c'est en train de revenir, l'Opus Dei, tous ces trucs...
Michel, on disait à cette époque-là, moi, je faisais partie de ces gens-là, qu'on disait, quand on est arrivé en France, on a dit, ben, nous, le Portugal, on est à 50 ans de retard, on a 50 ans de retard par rapport à la France. Je donnais 50, il en avait que donné 25, moi je donnais 50 d'un coup. Parce que tout ce modernisme, toute cette liberté de pouvoir parler, de pouvoir manger à sa faim et tout, on faisait ce qu'on voulait, évidemment, pour nous, on était très, très loin derrière.
Et vous êtes en train de vous rattraper, de revenir en retard, parce qu'avec toutes les lois contre les pauvres gens qui sont revenus en arrière, et même maintenant ils sont en train de revenir contre l'avortement et tout ça, pas officiellement, mais avec des lois qui font que c'est difficile de se faire avorter, il faut aller ailleurs, ils sont en train de revenir au siècle dernier en France. Ouais. Là, ça devient très grave. Mais ça, je n'engage que moi.
Donc ça va m'engager moi aussi, Michel, je vais te dire que j'ai même peur. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que les Français font, qui font rien du tout, ils laissent faire. Il y a des choses que moi je suis pas d'accord. Et je me suis dit, mais si on continue comme ça, ça va être une dictature. Ça n'engage que moi.
J'allais te dire que c'est une dictature. Parce Allez, on va faire une petite respiration musicale, oui. Parce que sinon Marine n'a plus de travail.
Alors, Michel, toi tu connais Nazaré.
Oui. Puisque... Je connais même Nazaré Pereira, qui est une chanteuse.
Oui, ouais, c'est vrai, une brésilienne.
Alors, Nazaré, donc ça vient de Nazareth, je suppose. Ouais. C'est très catholique, quand même. Oui.
Et, alors, c'est pas, il existe un groupe folklorique à Nazaré, mais c'est pas celui-là qu'on va écouter. Ce groupe folklorique de Nazaré, les femmes, portent 7 jupes. C'est une tradition
violer, c'est un peu galère,
des femmes pêcheurs, je sais pas quoi, de Nazaré. Et j'ai la, enfin, comment dire, je suis témoin. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'était un ami qui était avec moi cette année-là au Portugal. Et donc, l'ami s'est mis à genoux. Il a compté les jupes de la bonne femme. Il y en avait 7. Mais c'est pas ce folklore que je vais te faire écouter. Je vais te faire écouter le folklore du nord du Portugal. C'est un folklore très vivant, rapide. Et tu vas t'en rendre compte par la vitesse de la musique, et qu'on danse, et très coloré. Dans ce folklore, il y a les habits du dimanche, de la fête, du mariage, du travail, tout un tas de trucs, mais beaucoup de couleurs. Et les femmes portent beaucoup d'or autour du cou, parce que c'est le folklore du Minho montre un petit peu la richesse des personnes de la terre, les paysans, qui étaient plus riches que ceux qui n'étaient pas paysans, puisque le paysan, lui, il produisait, il pouvait vendre, donc il avait des moyens, alors que le pauvre travailleur, lui, il n'en avait pas. Donc je vais te faire écouter un groupe folklorique du nord du Portugal et qui nous va chanter une ville. C'est un peu comme une valse, mais c'est du folklore et ça va très vite.
Ok, allez écouter. Eh oui, c'est moi qui l'ai fait.
Ah ouais, ouais. Pas...
Tu croyais que c'est dans
le... Non, mais oui, mais donc je me tourne vers Marine, qu'est-ce que c'est?
Alors, comment il s'appelle ce groupe-là?
Alors, c'est le groupe de Santiago de Lobão, c'est du nord du Portugal. Ouais. C'est un tout petit peu avant Porto. Porto, la deuxième capitale de Portugal.
Ouais, je connais, moi, rivalité... moi je me suis arrêté à Lisbonne, j'ai pas eu le temps d'aller, j'ai fait tout le bas jusqu'à Lisbonne, je me suis arrêté.
Ah oui,
je suis jamais allé à Porto.
Non. Alors, Porto, il y en a dans les voyages organisés, et c'est d'ailleurs cette façon de montrer le Portugal aux touristes qui m'a, dans les voyages organisés, qui m'a poussé un petit peu à faire donc une émission de portugais dans une radio en France pour dire à mes amis français que le Portugal, c'est pas que Fatima, Lisbonne, les châteaux et Porto pour le vin, parce que quand on va les voyages organisés, Porto, il le loupe pas, mais c'est surtout pour y aller dans les caves du vin, le fameux vin de Porto, qui est à Porto, mais qui pousse pas, les vignes ne poussent pas à Porto. Hein.
Ah, bon.
Elles sont le vin de Porto, qui est très vieux, surtout les Anglais qui ont compris que la chose était bonne, et qui ont... donc ça, c'est... Oh, il y a... On peut dire de le vin de Porto peut arriver à peu près 200 kilomètres de Porto. Avant, elle arrivait par le ruisseau Douro, c'est une grosse rivière au Portugal. Donc elle arrivait en bateau, dans les barriques, par les bateaux, dans les caves. Aujourd'hui, évidemment, c'est par des camions citernes. Les bateaux, ils y sont, mais c'est juste pour le folklore. Tu peux faire le voyage en bateau jusqu'aux vignes de Porto, à main jambe dans le bateau. Aujourd'hui, c'est très, évidemment, c'est touristique. Et c'est cette partie-là, c'est de me dire qu'on montre seulement 3 ou 4 petites choses de ce qui existe au Portugal, alors que moi, je demande à tout le monde qu'il faut rentrer un petit peu à l'intérieur des terres, y aller un petit peu, et le nord de Portugal, que c'est une région que j'adore, évidemment. J'ai un frère qui a été cette année au Portugal avec toute sa petite famille, il a été au Algarve. Et quand il est arrivé ici, il m'a dit « Carlos, j'arrive de Portugal, mais je suis très, très déçu ». Et je dis pourquoi? C'est parce que j'ai mangé dans des beaux hôtels, de beaux restaurants, mais j'ai mangé comme si je mangeais ici en France.
C'est plus portugais.
Quoi. Voilà. Donc, il dit, ça parlait anglais, ça parlait je sais pas quoi. Et je lui dis, tu sais, il faut y aller à l'intérieur des terres. Et là, tu pourras manger le cochon que le mec, il a tué dans l'année.
Alors, voilà. Moi, je voulais te demander ça. C'est quoi le... La bouffe portugaise. Moi, je t'avais parlé l'autre fois du poulet que j'avais connu, le poulet
oui.
cuit à...
Churrasco, frango no churrasco, à la portugaise.
La portugaise,
oui, c'est bon.
C'est excellent.
Alors, la morue, évidemment, on en parle.
Bacalhau. Ça, c'est le plat principal.
Oui, c'est un plat...
Pourquoi ? Parce que c'est quand même le Portugal, en fait. Part sur la gauche, là, c'est pratiquement grande partie de porc.
Oui,
mais bon, donc, encore la pêche.
Oui. Mais la morue, l'histoire de la morue, je pense que c'était parce que au début c'était la bouffe des pauvres. Et je crois que elle est devenue importante parce que voilà, les gens ils avaient faim, et donc c'était un poisson qui était.
C'est un point commun en fait avec l'aveyron, le stockfish.
Oui, c'est un peu. Oui, mais
c'est un gros point commun avec le Portugal.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu. Alors, par contre, la morue, il y a, je sais pas, 365, même 366 recettes de morue, qui est très très bon. Moi, quand je vais au Portugal, la morue, c'est très très important. J'ai l'impression qu'elle est meilleure quand on la fait ici, même si ici à la maison de temps en temps on mange la morue, que ce soit grillée, que ce soit cuite avec des pommes de terre. Et la morue pour nous, pour la classe pauvre du Portugal, même je vais dire même jusqu'à la classe moyenne. Avant c'était pas comme ça, parce qu'avant il y avait le pauvre et le riche. Aujourd'hui, il existe une classe moyenne. Il y a toujours des pauvres, et je pense, comme ici en France, de plus en plus.
Alors que ça
mais
devient,
aussi des
en France,
riches.
Ça devient voilà des intermédiaires, il y en a moins maintenant. C'est très pauvre, très riche.
Oui. Voilà, c'est ce qui est en train de
se passer. C'est en train de vous remplacer là.
C'est cette dictature qui commence à me faire peur. Là, et à Noël, donc. Nous, c'est des pommes de terre. Le repas du 24 soir, c'est des pommes de terre avec la morue, des choux. Que quand je suis arrivé ici en France, on mangeait de ça et que les gens nous demandaient « Mais vous mangez des choux ?» Je dis « Ben oui. Ah, mais nous, ici, on donne aux bêtes. » Et c'est vrai que ça faisait bizarre. Quoi. On disait « Mais c'est un truc bon parce que le chou, c'est bon. » Alors, on met des oignons entiers, des pommes de terre, des choux. On fait la morue, on fait cuire la morue à part. Et on fait une sauce avec de l'huile d'olive, mais grillée. On le fait bouillir avec de l'oignon et ça donne un parfum incroyable. Et donc, nous, ça, c'est notre repas du 24 au soir, le 24 décembre. Et moi, je peux dire que la famille, maintenant, nous avons des Français dans la famille, des vrais Français, parce que, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns, parce que des vrais Français, il n'y en a pas beaucoup. Chaque fois que...
Je pense être le dernier.
Que j'ai mes amis, quand je leur demande, quand ils me disent, je suis Français, et moi, je demande le grand-père de ce qu'il est venu, bon, il y a toujours qui me disent, il est venu de Pologne, d'Italie, d'Espagne. Donc, des vrais Français, il n'y en a pas beaucoup.
Sarkozy, il est venu de Hongrie, d'ailleurs.
Oui, voilà, ça. Et c'est pour ça qu'il s'occupe d'envoyer les Roms chez eux.
J'en profite pour dire que le patron des Roms en Hongrie, il s'appelle Adolf Sarkozy. Et ça, c'est pas une vanne. Je jure que c'est vrai.
Voilà.
Bon, en fait, c'est une parenthèse.
Oui. Donc, dans la famille qui s'est agrandie, aujourd'hui, nous sommes presque une soixantaine de personnes, il y a des Français. Des vrais, dans la famille, des Espagnols, un peu de mélange. Et donc, les patates et la morue ne va pas à tout le monde pour le réveil.
Voilà, en France, c'est la dinde au marron.
Ah, oui. Et donc, on fait aujourd'hui à manger comme, à manger français, nous on dit. Mais les patates et la morue, il faut qu'elles y soient. Maman, il faut qu'elle fasse les pommes de terre avec le bacalhau.
Ouais, c'est traditionnel,
bien sûr. Parce que moi et mon frère, les deux aînés, si on n'a pas ça, c'est pas Noël.
Ouais, parce que c'est la tradition, c'est les souvenirs, c'est tout ça, bien sûr.
Donc je mange tout le reste comme tout le monde, mais mes pommes de terre avec la morue, maman, il faut qu'elle le fasse. Et en plus, fait par maman, on aurait dit que ça a un autre goût.
C'est toujours meilleur fait par sa maman.
Voilà, on a ces odeurs de quand on était gamin, il faut manger ça à côté du feu parce que la cuisine au Portugal, la cuisine là où on habitait, c'était en terre. Et ça m'a toujours fait travailler tout ça parce que maman, tous les jours, il nous faisait nettoyer la cuisine, on balayait la cuisine. Et en balayant, on faisait des trous. Et puis on allait chercher la terre glaise dehors et on bouchait le trou. Le lendemain, on recommençait. Et ça, j'avais jamais compris la chose. Et donc, on faisait la cuisine sous le feu à vif comme ça. On n'avait pas de gazinière, on appelait ça
au feu de bois,
la laide. Et donc avec des casseroles en fonte avec des pieds et on mettait le feu sous la casserole. Et c'est comme ça qu'on faisait la soupe.
Tant que j'étais là, c'est bientôt Noël donc dans un mois. Et moi je voudrais que tu me chantes là en direct un chant de Noël portugais.
Voilà.
Ah, t'es obligé.
Michel, pour une fois, il fait un peu de soleil.
Justement, j'ai envie, moi, plutôt qu'il neige, qu'il pleuve uniquement.
Non, mais
mais chante un petit chant en portugais. Un chant de quand t'étais petit.
Oh là là.
Si, c'est obligatoire.
Là, tu me demandes beaucoup, Michel. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais chanter.
Une comptine, portugaise. Qui ferait plaisir pour ton frère.
Je ne sais pas.
Allez, un petit
je
ne
sais
truc.
Pas, Michel.
Un petit chant de cantine portugaise, comme nous, c'était, je ne sais pas moi.
Je ne sais pas, on disait, moi je me
rappelle. Vas-y.
Quand ma mère m'envoyait, parce qu'il y avait le petit qui pleurait, donc elle m'envoyait.
Une berceuse, quoi.
Voilà,
oui,
et donc
berceuse,
je lui disais, dorme, dorme, meu menino, dorme, dorme, dorme bem, dorme, dorme, meu menino, que é que será a melhor coisa, que é a melhor coisa que tem.
C'est un peu comme ce que chantait Atahualpa Yupanqui. Duerme, duerme, negrito, oui, oui, que tu masma oui, está en el campo.
Voilà,
c'est une berceuse.
Oui,
quoi.
C'est un truc, voilà. Et je ne sais pas si ça faisait du bien.
Le gamin avait du mal à dormir. Tu chantais des chansons comme ça quand tu étais petit?
Je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas. Moi, j'étais le premier de la famille. En plus, je suis allé au mariage de mes parents. J'ai mangé des gâteaux ce jour-là. Oui.
Ils t'ont eu avant le mariage.
Oui,
j'ai
toujours dit à maman et à papa que bon, je suis un peu tordu. Mais je leur disais, c'est bon, vous m'avez bien commencé, mais comme le grand-père arrivait après, vous avez un peu accéléré, donc vous m'avez mal fini.
Loupé.
Ouais. Je suis allé au mariage de mes parents. Je pense, j'ai pas de souvenir d'être dans les genoux de mon père ou de ma mère. J'ai aucun. Papa, il était un peu
strict.
Voilà. Je pense que les derniers, ils ont été beaucoup plus gâtés que nous. Moi, je me dis sûrement, j'étais le premier, donc j'ai dû être gâté au départ. Oui. Mais de suite derrière, il y en a...
Ça arrive trop vite. Voilà. Et est-ce que toi, tu as des enfants?
Oui, j'ai des enfants.
Est-ce que toi, tu les prends sur tes genoux, tu leur dis que tu les aimes?
Mais oui.
Est-ce que tes parents t'ont dit qu'ils t'aimaient quand ils étaient petits?
Non.
Ton papa?
J'ai
Et
jamais...
toi, tu le leur dis?
Ah oui.
C'est important de dire.
Et beaucoup. Ah oui, oui. Je gâte peut-être un peu plus mes petits-enfants que mes enfants, mais je quand on est jeune, on n'a pas les mêmes choses. Et puis il y a le travail, donc aujourd'hui je profite beaucoup plus de mes petits-enfants que de mes enfants.
Allez, un peu de musique.
Oui, alors je vais te faire écouter, à nos amis du Terre qui le connaissent, hein, parce que je passe souvent cet artiste. C'est un artiste qui est venu déjà à Villefranche trois fois.
Ah.
Et il est venu au début. La première fois, on aimait bien sa voix quand on a commencé la radio. Et on l'a fait venir. Il est venu avec une cassette dans la poche. Et nous, on avait quelqu'un de point qui avait des instruments, tout ce qu'il fallait pour lui mettre la cassette. Il a chanté comme ça. Et petit à petit, il a monté. Il habitait à Paris. C'était un immigré. Comme nous, sauf que moi j'étais maçon et lui il était dans la chanson. Et la deuxième fois, il était un peu mieux, il est venu au théâtre à Villefranche, on pouvait encore faire venir des artistes pour chanter et danser au théâtre à l'époque. Et on montait même une buvette et tout. Et il est venu, alors là il avait déjà des lumières, et puis deux danseuses, très chic et tout. Et il a continué à monter. Et puis, la troisième fois, il est venu à Capdenac, toujours. C'est nous qu'on l'avait fait venir, la radio, l'émission. Tempo Lusitano, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Il est venu à Capdenac avec tous ses musiciens, avec un semi-remorque de matériel et un car où ils étaient tous dedans. Il est venu parce qu'il faisait un spectacle du côté de Biarritz, chez les Portugais, là-bas. Et donc, la veille, elle nous avait dit, si vous voulez, je vous fais un spectacle, il nous a pas pris très cher, 10 000 francs à l'époque. Et donc, il est venu avec tous ses musiciens. Alors, il s'appelle Tony Carrel. Aujourd'hui, c'est une star de la chanson au Portugal. C'est un romantique, il chante des chansons douces, d'amour. Et donc voilà, moi je voulais juste le faire écouter parce que c'est la réussite du portugais. Lui dans la chanson, d'autres dans la maçonnerie. Il s'appelle Tony Carreira. Et en plus, il nous chante une chanson qui dit merci à tous les émigrés qui l'ont aidé à devenir la star.
Eh bien Carlos, on va se quitter sur ce morceau parce que c'est déjà la fin. Encore une fois, on a passé une super émission. Et moi, je te dis un grand merci. J'envoie de ta part un grand merci à tous les Portugais. Je fais un gros bisou à Marine. Et donc, à bientôt.
À bientôt, Michel. Merci de m'avoir invité.
Merci.
às vezes eu penso quando estou sozinho. Quando as luzes se apagam e a cortina fechou. Se não fossem vocês a traçar meu caminho, eu por certo não era hoje o homem que sou. Tantas vezes ao espelho hoje ainda choro. Das horas mais difíceis que passam por mim. Mas como se eu fosse um filho, vocês levam-me ao colo. Um aplauso, um carinho e volto a sorrir. São vocês que me dão a força que eu preciso e a paixão que me faz entregar-me em cada canção. São vocês a razão deste sonho que eu vivo e a vocês hoje digo obrigado por tudo que me dão. Tantas vezes perdido na estrada da vida, duvidei de mim mesmo e para onde seguir. Mas vocês com a vossa entrega infinita acenderam-me a chama sempre que a perdi. E se ainda aqui estou depois de tantos anos, com a mesma inocência de primeira vez, é para dar o que tenho a quem tanto amo e receber em troca todo o amor de vocês. São vocês que me dão a força que eu preciso e a paixão que me faz entregar-me em cada canção. São vocês a razão deste sonho que eu vivo e a vocês hoje digo obrigado por tudo o que me dão. Obrigado por tudo que vocês me dão.
Et si on en parlait? Une émission parrainée par le restaurant Le Sud, place André Lescure à Villefranche-de-Rouergue. Le Sud, pour ne pas perdre le Nord.